Tamani, voici nos informations en français.
À l'écoute des programmes de Studio Tamani, il est 8h. Bonjour et bienvenue. Voici les grandes lignes de cette édition. Fin hier à Bamako d'une rencontre sur les réformes constitutionnelles et électorales. À cette occasion, des organisations de la société civile ont demandé que la gestion et l'organisation des scrutins soient confiées à la CENI. Mais il faut rappeler que cet organe a été dissous par la transition il y a plus d'un mois. 80% des accidents à Bamako sont causés par l'incivisme sur la route, selon le ministère des Transports et des Infrastructures. Ces responsables étaient mobilisés hier au niveau des différents carrefours de la capitale. Objectif, sensibiliser les usagers sur la courtoisie. L'arrêt du train voyageur a eu d'énormes conséquences sur la vie des populations de Tokoto, localité située dans la région de Kita. Les habitants espèrent une reprise rapide du trafic ferroviaire. Point complet de ce titre dans un instant avec Assetou Kanté, mise en onde Mamadi Keita. Bonjour à tous et bienvenue. Un forum national sur les réformes constitutionnelles et électorales initié par l'Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie AJICAD Mali et ses partenaires a pris fin hier à Bamako. Après deux jours d'échanges, de nombreux acteurs de la société civile ont demandé que des modifications soient apportées au niveau de 10 articles de la Constitution et 10 autres articles de la loi électorale au Mali. Notre reporter Moussa Malé Sissoko nous fait le point sur certaines de ces recommandations.
Le président de la République ne peut exercer plus de deux mandats, consécutifs ou non. C'est l'une des recommandations faites par les participants au forum dans le cadre du processus de réforme politique et institutionnelle. Dans les textes actuels, la Constitution du Mali indique au niveau de son article 30 que le président de la République ne peut être rééligible qu'une seule fois. Au niveau de l'article 2, ils ont demandé que l'accès des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec un handicap aux mandats électoraux et aux fonctions nominatives puisse être favorisé par des mesures particulières prévues par la loi. Ce forum national a aussi recommandé qu'un Sénat soit ajouté au Parlement en plus de l'Assemblée nationale. Ces changements faciliteront la participation pleine et effective des différentes couches de la société à la vie publique et politique de la nation, indiquent les organisateurs du forum. Dans la loi électorale actuelle, la Commission électorale nationale indépendante CENI est chargée de la supervision et du suivi des élections. Les participants au forum ont proposé hier que l'organisation de la gestion des élections soit conférée à la CENI, à l'exception du contentieux électoral. Ils demandent aussi que l'âge des candidats à la présidentielle soit limité à 70 ans.
Un comité de plaidoyer a été mis en place pour le suivi de ces recommandations. C'est du moins ce qu'annoncent les organisateurs du Forum national sur les réformes constitutionnelles et électorales. Selon Mme Maïga Adam Digo, directrice exécutive de l'AJICAD Mali, leurs propositions seront soumises aux autorités de transition très prochainement. Elle est au micro de Moussa Malé Sissoko.
La particularité déjà, c'est ce document de positionnement de la société civile pour nous permettre d'avoir des élections crédibles, transparentes, qui est synthétique par rapport à la vision, à la mission, mais aussi aux attributions de la société civile pour faire la demande au niveau du gouvernement, mais qui est aussi synthétique par rapport à notre vision même de ces réformes profondes que le gouvernement prévoit pour le pays. Oui, la suite déjà, c'est ce comité de plaidoyer qui a été mis en place. C'est ce comité de plaidoyer déjà qui va organiser une conférence de presse pour délivrer à l'ensemble des Maliens ce qui a été décidé pendant ces deux jours d'atelier avec l'ensemble des... et remettre ce document au Premier ministre et suivre de près par rapport à l'agenda du gouvernement pour les réformes. Donc nous, en tant que société civile aujourd'hui, nous avons pris le devant et nous espérons que le gouvernement prendra ce document comme un document de travail.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Une délégation composée d'une cinquantaine de personnes, dont les autorités communales de Dogofri et les émissaires du Haut Conseil islamique, est arrivée mardi à Farabougou. Objectif, s'assurer de l'application effective du cessez-le-feu conclu mi-mars entre les chasseurs traditionnels d'Onso et les groupes djihadistes. Si la mission s'est dite satisfaite de ce qu'elle a constaté sur le terrain, du côté de la population, on craint que cette trêve ne vole à l'éclat. Ali Cissé.
À Farabougou, la trêve conclue le 14 mars dernier entre les chasseurs traditionnels d'Onso et le groupe djihadiste respectif. C'est le constat fait par une délégation de conciliation dont le Haut Conseil islamique et les autorités communales arrivées ce mardi 23 mars 2020 dans la ville. L'émotion était grande. Des couples et des proches qui avaient été séparés durant des mois ont pu se retrouver, affirme le négociateur du Haut Conseil islamique, Mohamedou Moufa Haïdara.
Moi, c'est la Les gens peuvent rentrer et sortir de Farabougou librement. Les populations de Farabougou peuvent aller à leur champ. Nous avons fait un aller-retour libre à Farabougou sans qu'une mine n'explose sur notre chemin. Il y avait parmi nous des gens qui ne pouvaient pas voir leurs femmes et des enfants qui ne pouvaient pas voir leurs pères. On est rentrés ensemble à Farabougou heureux et émus. L'accord de chercher le feu tient bon et il est respecté.
Toutefois, certains habitants de la localité émettent des réserves sur le respect du cessez-le-feu signé entre les deux parties. Ils craignent que les tirs de l'armée en réponse aux jeux lumineux sur leur position ne fassent capoter l'accord. Selon ce tenu communal de Dogofri, la réaction des militaires est proportionnée. Cependant, ils estiment que la solution de ce conflit ne peut venir que de Farabougou. Zoumana Koulibaly, premier adjoint au maire de la commune de Dogofri.
L'accord de cessez-le-feu signé entre les deux parties le 14 mars dernier tient bon et il est respecté dans plusieurs localités. Les forces armées n'ont pas vocation qu'à riposter à des attaques. Elles préviennent les attaques. Les choses ont commencé à Farabougou. C'est également à Farabougou qu'il faut aller, qu'ils aient un esprit tranquille. On y travaille si Dieu le veut.
Rappelons que Farabougou était sous le blocus des groupes armés extrémistes depuis le 6 octobre 2020.
Direction Gao, où un magasin de munitions numéro 1 de la région a pris feu lundi dernier. L'incendie n'a pas fait de perte en vie humaine et les dégâts matériels ont été limités, selon un communiqué de l'armée. Après l'incendie de ce magasin de munitions, des familles riveraines disent s'inquiéter pour leur sécurité. Certains demandent aux autorités de revoir l'emplacement du camp. Écoutons leur réaction au micro notre correspondante à Gao, Adizatou Mohamed Maïka.
On a vraiment eu peur hier parce qu'on a vu sortir de la fumée vers les camps. On était plusieurs sous l'arbre, certains au niveau du rond-point. Ma famille m'a appelé pour que je rentre vite.
Heureusement pour moi, quand même, ma famille n'a pas eu ce problème. Les gens ont beaucoup peur.
On a eu vraiment peur. Maintenant, nous ne pouvons pas quitter d'abord à côté du camp parce que la plupart des familles qui sont là-bas, ils sont sur jeu et ils n'ont pas d'autres familles en ville. Mais ce que nous suggérons, c'est si possible maintenant de faire éloigner le camp de la population.
Il me semble que le camp, dans un passé récent, était jusqu'à la sortie de la ville, mais avec une urbanisation galopante incontrôlée. Et aujourd'hui, le camp se trouve pratiquement au cœur de la ville qui l'entoure. Donc, nous souhaiterions auprès des autorités de revoir cela.
Autre sujet, soyons tolérants et courtois sur la route, c'est le thème de la 10e édition de la Journée nationale de la courtoisie sur la route. Selon les responsables du ministère des Transports et des Infrastructures, 80% des accidents à Bamako sont causés par l'incivisme sur la route. Cette journée vise donc à informer et sensibiliser les usagers afin d'atténuer les risques de ce phénomène. Ils invitent les usagers à faire de cette journée une pratique quotidienne. Ousmane Maïga est conseiller technique au ministère des Transports et des Infrastructures. Il est au micro de Koumafin Keïta.
La lutte contre l'insécurité routière passe nécessairement par la courtoisie sur la route et surtout la tolérance. Dans nos statistiques d'accidents de la route, nous avons remarqué de plus en plus que près de 80% des accidents de la circulation routière sont dus au comportement humain. Donc nous devons agir sur ce comportement. Au cours de cette journée, il s'agit d'appeler les usagers de la route à faire en sorte d'être tolérants sur la route. Tolérance à l'endroit surtout des usagers vulnérables, qui sont les piétons, les personnes en situation de handicap, pour que ceux-ci puissent aussi partager le déplacement qui est un droit fondamental. Si au cours de la journée, nous n'avons pas enregistré, en tout cas c'est notre souhait, aucun accident grave, ça veut dire qu'on peut répercuter encore cette journée pour modifier le comportement, parce qu'il n'y a qu'à ces prix qu'on pourra réduire les accidents.
Je vous l'annonçais dans les titres, à Tukoto, localité située dans la région de Kita, l'arrêt du train a eu d'énormes conséquences sur la vie de la population. Des familles disloquées, des personnes déplacées, des emplois perdus, l'économie locale est au ralenti, affirment des habitants de Tukoto qui prient pour la reprise rapide du trafic ferroviaire. Notre correspondant de Kita, Fode Moussa Diakité, s'est rendu à Tukoto, suivant son reportage.
Depuis plusieurs années, le train n'a pas soufflé à Tukoto. Pourtant, cette localité située au bord des rails dépendait beaucoup du trafic ferroviaire. Zoumana Boune Diané, un habitant de Tukoto, selon lui, les conséquences de l'arrêt du train sont inestimables.
L'arrêt du train a causé de nombreux problèmes ici à Tukoto. Les jeunes sont allés en chômage, les vieux qui subvenaient aux besoins de la famille n'arrivent plus à subvenir aux besoins. Ça a développé beaucoup de délinquances, beaucoup de vols, ça a causé beaucoup de divorces même. Il y a des familles qui n'existent plus, il y a des familles qui ont déménagé à Bamako, d'autres sont partis ailleurs. Ce qui fait que le village est vide maintenant.
À Tukoto, l'économie locale reposait sur le trafic ferroviaire. Il permettait à la population, notamment les femmes, de créer des activités génératrices de revenus. Celles-ci ont été beaucoup affectées par l'arrêt du train. Rokia Kanouté est ménagère à Tukoto.
L'arrêt du train a eu beaucoup de conséquences sur nous les femmes. D'abord, les voyages sont devenus difficiles à cause de l'état des routes, surtout lorsqu'on a des enfants. Ajouté à cela, le commerce qui ne marche plus. Les gens n'ont plus d'argent. Même si tu as des marchandises à vendre, les gens n'achètent pas. Donc c'est difficile.
La population de Tukoto souhaite une reprise rapide du train. Pour Zoumana Bounedjane, la reprise du train va relancer l'économie locale.
Notre souhait le plus ardent est que le train reprenne. Le train reprend son chemin, que la locomotive siffle dans la gare de Tukoto. Quand le train reprend ses activités normales, vous allez voir que l'économie va booster et ce village-là va respirer normalement.
Fode Moussa Diakité pour Studio Tamani depuis Kita.
Parlons santé. Situation de la COVID-19 au Mali. À la date du mercredi 24 mars, les autorités sanitaires du pays ont enregistré 103 nouveaux cas positifs, 19 patients guéris et 0 décès. Ainsi, la situation cumulée est de 9577 cas confirmés, dont 6680 guérisons et 372 décès. Place maintenant à notre rubrique Actu COVID présentée par Khalifa Goïta.
Chers auditeurs, bienvenue dans votre rubrique d'Actu COVID. Aujourd'hui, nous vous proposons notre deuxième série de questions répondues par 5 spécialistes de la santé.
Bonjour professeur. Avec l'explosion du nombre de nouvelles infections à la COVID-19, envisagez-vous de fermer à nouveau les frontières?
Ça, c'est des mesures qui sont prises exclusivement par le Conseil supérieur de la défense. C'est lui qui va statuer sur les mesures à prendre, quelles sont les avancées que nous avons et quelles sont les mesures que nous devrions prendre pour protéger encore plus nos populations.
Allô docteur, c'est quoi V avec la même tondeuse? Peut-il être facteur de contamination?
C'est pas comme le VIH où on se dit que si quelqu'un se blesse avec une rasoir et qu'il y a du sang frais là-dessus, si tu arrives à utiliser cette même rasoir avec le bouclette de sang qui sont là-dessus, tu peux t'infecter. Pas le même cas. La contamination sanguine n'a pas été démontrée pour le moment. Ici, là, surtout la transmission avec les gouttelettes, les nasopharyngiens.
Allô, professeur. On exige de plus en plus le port du masque. Pendant combien d'états doit-on le garder?
Un masque, de façon globale, il faut le garder pendant 4 heures de temps. Après 4 heures de temps, il faut les changer ou les laver parce qu'il y a des masques qu'on lave. Mais dans notre contexte, toutes les 4 heures aussi, il faut changer de masque. C'est un peu difficile, mais il faut respecter surtout les mesures barrières et aussi bien entretenir le masque. Quand on a le masque, plus on touche, on manipule le masque, les masque va s'abîmer par rapport à quelqu'un qui ne manipule pas.
Allô docteur, est-ce que les abeilles de la friperie sont facteurs de contamination du coronavirus?
Les friperies en tant que telles bien traitées, c'est pas un problème. Mais si c'est une friperie qui est là, tout le monde vient toucher et que parmi vous il y a quelqu'un qui est infecté, là ça peut propager. Le revendeur aussi, s'il a des clients qui sont infectés, c'est une bonne manière de transmettre.
Bonjour docteur, les patients guéris de COVID-19 peuvent-ils développer d'autres pathologies?
Ah ben oui, ils peuvent même avec la COVID être co-infectés et les guéris peuvent faire d'autres pathologies. N'oubliez pas que la COVID est causée par un virus et d'autres infections, vous avez les infections bactériennes, vous avez les infections parasitaires qui peuvent être aussi des raisons de maladies chez ces patients guéris de la COVID-19.
C'est tout pour ce numéro d'ActiCovid. Merci à vous de la suivi. N'oubliez pas de suivre les conseils des médecins pour vous protéger de la maladie à coronavirus.
Studio Tamani.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
Écho des régions à Sikasso, la mise en place de la plateforme Lait et Petits Ruminants a pris fin hier. Selon les organisateurs, il s'agissait d'identifier les problèmes de la chaîne de valeur bétail et petits ruminants et de proposer des pistes de solutions. La rencontre de deux jours est organisée par le projet de développement durable des exportations pastorales au Sahel. Elle est financée par la Banque islamique de développement. La prévention, la gestion des conflits et la non-violence étaient au cœur d'une formation qui a pris fin mardi à Kaya. Plus d'une trentaine d'acteurs locaux venus de Yelimane, Nyoro du Sahel, Djema et Kaya ont pris part à la rencontre. L'objectif était de renforcer les capacités des participants. L'activité a été financée, a été initiée par GRDR et Hazard et financée par Enabel. C'est la fin de cette édition, mais vous pouvez réécouter toutes ces informations sur notre site web au www.sudiotamani.org ou en appelant gratuitement sur la plateforme Viamo au 37 321. Restez à l'écoute de Studio Tamani. Dans quelques minutes, ce sera la version Bambara de cette édition, mais avant tout de suite, le magazine. Studio Tamani.